enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, on va lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. On va commencer à partir du verset 26, chapitre 1, verset 26, et on va aller jusqu'au chapitre 2. Verset 5. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et ce qui a vraiment frappé mes yeux, d'ailleurs, ça fait d'ailleurs plusieurs jours que ça me travaille, et ce matin, j'étais là en train de prier, et ça continuait vraiment, 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 c'est que le royaume de Dieu, disons, ce que nous sommes supposés faire, notre parole, prédication, qui ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance, c'est ce que Dieu veut au travers de son Église. Amen. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. C'est la volonté de Dieu pour tous ceux qui ouvrent la bouche, pour toute personne qui ouvre la bouche pour parler de Jésus, que ce soit à son voisin, à son frère, à son parent, à son collègue de travail ou d'école, que quand tu ouvres la bouche, ce ne soit pas les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse, mais que ce soit une démonstration de puissance. Amen. La démonstration de puissance, ce n'est pas réservé aux deux ou trois que Dieu a choisis sur la face de cette terre, mais c'est réservé à tous ceux qui ouvrent la bouche pour parler du Seigneur. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois prédicateur ou que tu ne le sois pas. Amen. C'est le don de Dieu à son Église. Bien sûr que les gens qui prêchent, les serviteurs de Dieu, sont appelés à cette démonstration d'esprit et de puissance. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est là et c'est de cette manière-là que nous devons fonctionner, que nous devons marcher. Nous le devons. Amen. Nous ne le pouvons pas, mais nous le devons. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes parce que ces choses ne viennent pas de nous, mais elles viennent de Dieu et c'est une promesse de Dieu pour ceux qui le croient, pour ceux qui le croient et pour ceux qui le réclament. Amen. Et c'est ça que j'avais à cœur ce matin, c'est de réclamer au Père une démonstration de puissance, une démonstration d'esprit et de sagesse. De réclamer au Père. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont promises dans la parole de Dieu, qui sont selon la volonté de Dieu, et que tu ne les vois pas dans ta vie, c'est à toi de te mettre dans une position. Ça, c'est écrit dans la parole, c'est la vérité. C'est la volonté de Dieu, je le crois et je le veux. Je le crois et je le veux. Et si je le veux, et si je le crois, et si c'est la volonté de Dieu, alors je dois l'avoir. Je dois l'avoir et je dois le réclamer. Mais bien souvent, on est en train de réclamer des choses à Dieu et ça n'a aucune importance. Ça n'a même des fois aucune valeur. Amen. Il est temps vraiment que nous réclamions à Dieu les choses qui sont selon sa volonté, qui ont de la valeur, qui sont puissantes et efficaces pour son œuvre et pour son royaume. Sur quoi est-ce que nous pouvons nous baser pour pouvoir réclamer cela à Dieu? Est-ce que c'est sur nos mérites? Non. Ce n'est pas sur nos mérites, ce n'est pas sur la base de nos mérites, ni même de nos capacités personnelles, ni même de notre intelligence. C'est pour ça que j'ai commencé à lire depuis le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dans l'ensemble, nous sommes des gens ordinaires, dans la chair. Parce que dans la réalité spirituelle, nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes des gens extraordinaires en Christ. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. La nature divine habite en nous, c'est ce qui fait de nous des gens extraordinaires. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des rois, des sacrificateurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Et quand Dieu le Père te regarde, c'est comme s'il regarde Jésus. Et ça, ce n'est pas toi ni moi qui l'avons accompli. On n'a rien accompli, on n'a rien mérité. Mais tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par grâce, c'est-à-dire un cadeau gratuit. Et nous l'avons reçu par quel moyen? Par le moyen de notre foi. Amen. Par le moyen de notre foi, nous avons reçu le don de la nouvelle naissance parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. De la même façon, par grâce et au moyen de ta foi, tu peux recevoir de la part du Père cette démonstration et de puissance, cette démonstration d'esprit et de puissance pour que quand tu ouvres la bouche, quand tu prêches, eh ben, que les gens se convertissent. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant et de plus décourageant et lassant que quand tu vas de maison en maison, que tu es en train de parler de Jésus aux gens et qu'il n'y a personne qui se convertit. Que quand tu dis « Oui, Jésus est celui qui a la puissance de te guérir, je vais prier pour toi », tu pries pour la personne et elle n'est pas guérie. Et c'est nous qui sommes ridiculisés, c'est nous qui sommes honteux parce qu'on a essayé de mettre la parole de Dieu en pratique et au bout du compte, on n'a rien vu du tout. Mais Dieu veut que tu vois des résultats. Il veille sur sa parole, il est derrière sur sa parole pour l'accomplir. Et cette démonstration d'esprit et de puissance, c'est la volonté de Dieu pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, pas pour ceux qui restent assis sur leur chaise à ne rien faire. Amen. Et tu peux dire, moi je n'ai pas été appelé à prêcher. Nous avons tous été appelés à témoigner de Jésus d'une manière ou d'une autre. Et quand tu commences là, peut-être que le Seigneur t'appellera à faire davantage par la suite. Cette démonstration d'esprit et de puissance, elle est la volonté de Dieu pour l'Église de Dieu. Elle doit être manifestée, elle le doit être manifestée dans l'Église. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter qu'il en soit autrement. Parce que si tu acceptes qu'il en soit autrement, eh bien, tu acceptes que la volonté de Dieu ne se fasse pas. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut qu'on se réveille. Oui, si Dieu le veut, il agira avec puissance. Si Dieu le veut, il répandra son esprit. Si Dieu le veut, il y aura des dons spirituels. Si Dieu le veut, il y aura des guérisons. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Et on remet tout sur Dieu. Mais Dieu nous dit, je le veux. Dieu le veut. Dieu veut que ces choses soient manifestées avec puissance dans l'Église et au travers de ta vie. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous a faite, le privilège incroyable qu'il nous a donné de pouvoir le servir, avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce n'est pas réservé qu'à quelques-uns. J'aimerais vous le prouver, on va lire dans Actes. Vous gardez la page de Corinthiens, mais on va lire dans Actes au chapitre 6. Actes chapitre 6. C'est au moment où dans l'Église, il y a énormément de travail puisque l'Église grandit et les apôtres sont ceux qui prêchent la parole de Dieu, mais ils sont aussi ceux qui servent aux tables et ils sont tellement débordés qu'ils n'ont plus vraiment le temps pour prier et pour préparer, pour pouvoir exercer le ministère. Amen. Vous savez, la délégation dans l'Église, c'est quelque chose d'important. Tout ne doit pas reposer sur une ou deux personnes. Parce que quand on est trop occupé à faire des choses, des tâches matérielles que n'importe qui peut faire, eh bien, on n'a plus vraiment de temps ni de force pour pouvoir prier et se consacrer à la parole de Dieu, alors que c'est notre rôle en tant que serviteur de Dieu. C'est notre premier rôle et ce rôle doit absolument être préservé. Amen. Donc, les apôtres, ils se trouvaient complètement débordés et ils ont décidé qu'il serait mieux qu'on puisse choisir des, ce qu'on appelle des diacres. Donc, c'est simplement des gens qui sont dans le ministère d'aide. Ce sont des aides, des diacres qui soient là pour accomplir des tâches matérielles. Dans l'Église, aujourd'hui, on voit que les diacres, ce sont les gens qui travaillent dans le protocole, ce sont les gens qui sont conseillers, ce sont les gens qui font parfois des visites, ce sont des gens qui travaillent dans le groupe de louanges, qui peuvent être travaillent dans le programme des enfants, qui vont également assister, accompagner à la prison, qui vont aider au déplacement des instruments quand c'est nécessaire de les déplacer. Voilà qui sont les diacres. Amen. Donc, les apôtres avaient décidé de choisir des diacres et ils en ont choisi donc un certain nombre. Et au verset 6, il est écrit « Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça, c'est le résultat de la délégation. C'est que les apôtres ont pu davantage prêcher et du fait qu'ils avaient davantage de temps pour prêcher et pour étudier la parole de Dieu et passer du temps dans la prière, eh bien, l'onction augmentait. Et quand l'onction augmente, eh bien, les gens se convertissent. Amen. Ça, c'était pour les apôtres. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est sur le verset 8. Étienne, où est-ce qu'on le voit, Étienne? Eh bien, on le voit au verset 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnénas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ça, ce sont les diacres qui avaient été choisis. Les diacres sont choisis par les hommes. Amen. Les diacres, ce sont des gens qui sont là pour aider le ministère. Ils sont choisis par les hommes. Alors que ceux qui sont dans le ministère, ils sont choisis et appelés de Dieu. Donc, ces diacres en question, ils étaient un certain nombre. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 qui sont nommés ici. Et tous n'ont pas bien tourné. Par exemple, le dernier, Nicolas, il a mal tourné, il a mal fini. Quand on lit l'Apocalypse, on entend parler de la secte des Nicolaïtes, des gens qui ont dévié et qui ont, dans leur motivation, dans leur façon de servir Dieu, sont devenus une secte et ils étaient plus du tout dans le bon chemin, dans le droit chemin. Mais ce qui nous intéresse là, c'est Étienne. Donc on revient au verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne, plein de grâce et de puissance, je répète, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne n'était pas un prédicateur. Il était un diacre, il était quelqu'un qui aidait simplement dans l'église. Et pourtant, il était plein de grâce et de puissance. Et il faisait des prodiges et de grands miracles. On aime chanter « Tu es grand et tu fais de grands miracles ». C'est bien et c'est merveilleux. Dieu est grand et il fait de grands miracles. Mais il veut les faire au travers de ta vie. Il veut les faire au travers de ma vie. Il veut les faire au travers de son Église. Et ne soyons pas jaloux les uns des autres. Ne soyons pas les jaloux les uns des autres. N'ayons pas cet esprit de dispute, de compétition, de division, où les uns disent « moi je suis de Paul », les autres disent « non, moi je suis d'Apollos », ou alors d'autres encore qui disent « c'est au travers de moi et de moi seul que ça doit passer ». Si ça doit passer qu'au travers de toi, ben ça serait vraiment dommage, parce que ta vie n'est pas suffisante pour que tout ce que Dieu veut accomplir ne passe qu'au travers de toi. Ça doit passer au travers de tout le monde. Vous savez, c'est un petit peu cette image en mathématiques, c'est pas mon point fort, mais en mathématiques, vous savez que quand on fait les arbres là, avec les divisions, il y a un point en devient plusieurs. Quand on dit qu'on va multiplier par 3, il y a un point, on dit que ça va être 3 points. Et de ces 3 points, va ressortir encore 3 points. Et des points suivants, encore 3 points. Et ça devient un arbre énorme et gigantesque. Amen. Et quand les miracles de Dieu coulent au travers de la vie des hommes de cette manière-là, c'est quelque chose d'immense et de gigantesque. Ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, ce n'est pas ce qu'il veut faire au travers de ma vie. Ou il peut nous utiliser à deux, ça arrive de temps en temps. Quand on regarde toujours dans Actes, on va aller dans Actes 3. On voit Actes 3. Verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Je m'arrête là juste un instant. Pierre n'a pas, c'est Pierre qui c'est d'ailleurs Pierre qui a parlé. Il a pas dit regarde-moi. Tu sais là, ce Jean là, il dérange. Il se prend pour le disciple que Jésus aime. Quand on lit les évangiles, on voit qu'il y avait vraiment une dispute entre les disciples, mais c'était à l'époque où ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Quand on lit les disciples avec Jésus, lorsqu'ils sont avec Jésus, ils sont des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Alors ils sont tout le temps en train de se disputer. Qui est le plus grand ? Dis que je m'assois, dis à Jésus que mes enfants s'assoient l'un à ta droite, l'autre à sa gauche. Jean qui montre qu'il a couru plus vite que Pierre pour arriver au tombeau. C'est normal, il était plus jeune. Celui qui dit « Oh, je suis le disciple que Jésus aimait. » Jésus aimait tout le monde. Mais on voit qu'après la Pentecôte, cet esprit n'est plus là chez les disciples. Même s'ils ne sont pas parfaits, même si parfois il y a des problèmes, même si parfois il y a des histoires, parce que quand on lit les actes et les lettres, on voit que les épîtres, on voit que parfois il y a eu des problèmes entre eux. Amen. Mais là, ils sont tous les deux ensemble et Pierre ne s'est pas dit « Mince, il y a Jean qui est là, il me dérange. Je ne vais pas pouvoir faire ce miracle moi seul. » Il ne dit pas ça. Il dit « Regarde-nous. Regarde-nous. Jean et moi, regarde-nous, nous sommes des gens ordinaires. » Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et je vous assure que, à la suite de ça, Pierre n'est pas venu en se gonflant en disant « C'est moi que le Seigneur a utilisé pour accomplir ce miracle. Bon, Jean, il était là, mais c'est moi. » Il n'a pas dit « c'est moi ». Il a donné la gloire à Dieu. Il a donné la gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu, que Dieu t'utilise, qu'il m'utilise, qu'il utilise tel frère ou telle sœur. Gloire à Dieu, plus il va en utiliser, plus il y aura de choses grandes et magnifiques qui vont se produire. Amen. On peut être ensemble, le Seigneur fait un miracle, il va utiliser la bouche de tel ou la bouche de tel. C'est bien. Si, est-ce que si tu es avec un frère ou une sœur et que tu vois ce frère ou cette sœur prier pour un malade et tu es ensemble avec cette personne et que ce malade est guéri, est-ce que tu vas te réjouir? Est-ce que tu vas vraiment te réjouir parce que Dieu a utilisé l'autre et pas toi? Et si tu es capable de te réjouir pour cela, eh bien Dieu va t'utiliser toi aussi, c'est que tu es utilisable. Mais si dans ton cœur, il y a un grincement de dents en disant ça, c'était moi qui l'aurais dû utiliser, moi je suis meilleur que lui, je sais mieux que lui. Quand on fait ça, on se disqualifie nous-mêmes. Je vous assure qu'on se disqualifie nous-mêmes. Et Dieu ne peut pas t'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil, orgueil, arrogance, ce genre de choses que Dieu n'aime pas du tout et qui nous disqualifie complètement du fait d'être utilisés de lui. Nous devons réclamer une démonstration d'esprit et de puissance pour l'Église, pour la gloire de Dieu, afin que toutes les choses que Dieu veut faire puissent être faites. Vous savez, si ça repose sur une seule personne ou deux, comme je vous le disais, nous sommes des gens limités par notre corps de toute manière. On ne peut pas être partout à la fois. Quand Jésus était sur cette terre, il était limité dans son corps et il y avait moins de miracles qui ne s'en produisent aujourd'hui. Les miracles que Jésus a faits, ce sont des miracles extraordinaires. Amen. Et je ne remets pas du tout en cause la valeur des miracles de Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était lui seul. Bon, il avait aussi délégué à ses disciples de temps en temps d'aller de ville en ville et de faire un certain nombre de choses, mais c'était très peu. Mais le jour où il est ressuscité d'entre les morts, il est venu habiter dans notre cœur. À chacun d'entre nous, nous portons Jésus dans notre cœur. Non pas comme on porterait un tableau décoratif, mais quand tu portes Jésus dans ton cœur, tu portes aussi sa puissance avec toi. Donc tu dois penser comme Jésus, tu dois parler comme Jésus, mais tu dois aussi agir comme Jésus. Et là, c'est beaucoup plus avantageux quand cette puissance, cette démonstration d'esprit et de puissance, elle se manifeste au travers de tous les membres du corps de Christ. Parce qu'il y en a des millions et des millions et des millions sur cette terre. Et c'est pour ça qu'en l'espace d'une journée, il peut se produire beaucoup plus de choses au travers de millions de personnes qu'au travers d'une seule personne. Amen. Amen. Et ça ne repose ni sur notre intelligence, ni sur notre sagesse, ni sur notre sagesse, ni même sur nos bonnes œuvres ou sur nos mérites personnels. Et ça, on doit vraiment sortir de cette idée « je mérite pas » ou « je mérite » ou « je mérite pas ». Je vais vous dire quelque chose, personne ne mérite. Si tu penses que tu mérites, c'est que tu es vaniteux et orgueilleux. Si tu penses que tu ne mérites pas, eh bien, tu as raison quelque part, mais tu as tort dans un autre sens parce que tu ne vis pas à la lumière de ce que Christ a fait de toi. Humainement parlant, on ne mérite pas. Et quand tu penses que tu ne mérites pas, tu as raison. Mais ne reste pas à ce niveau-là parce que quand tu restes à ce niveau-là, tu restes dans un niveau humain. Rappelle-toi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses nouvelles en lui ont fait de nous des rois et des sacrificateurs. On fait de nous des fils et des filles que Dieu veut utiliser. Amen. Donc on ne doit regarder ni du fait que nous sommes sages, ni du fait que nous sommes puissants, ni du fait que nous sommes nobles, ni du fait que nous méritons ou que nous ne méritons pas. Ça, ce sont des pensées qui sont strictement humaines. Et il est temps que nous fonctionnions avec les pensées qui viennent de Dieu. Parce que Jésus n'a pas choisi beaucoup de gens très intelligents. Quand il a choisi ses 12 disciples, il a choisi des pêcheurs de poissons pour la majorité d'entre eux, un douanier, des gens qui n'étaient pas réputés. Il n'a pas été chez les pharisiens pour chercher le plus grand d'entre eux. Il n'a pas été chez les princes, chez les rois ou chez les nobles. Il a pris des gens simples et ordinaires. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui servent Dieu sont issus de cette catégorie sociale. Ça ne veut pas dire cela non plus, parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Amen. Et parmi les gens simples, il y a des gens qui ont des bons cœurs. Parmi les gens élevés, il y a des gens qui ont des bons cœurs. Parmi les blancs, il y a des gens qui ont des bons cœurs. Parmi les noirs, il y a des gens qui ont des bons cœurs. Amen. Et le contraire est vrai. Dans toutes ces catégories-là de personnes, il y a également des gens qui ont des mauvais cœurs. Et quand on parle de mauvais ou de bon cœur, là encore, je ne parle pas de mérite personnel. Un bon cœur, c'est un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui cherche Dieu, c'est un cœur qui désire suivre Dieu malgré les erreurs, malgré les gaffes, malgré les chutes, parce que ça arrive à tout le monde. Et ne prétends pas que ça n'arrive qu'aux autres, parce que ça t'arrive à toi tout aussi bien. Et quand on prétend que ça n'arrive qu'aux autres, on est dans cette situation où Jésus dit, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, vois d'abord comment ôter la poutre qu'il y a dans le tien. Dieu regarde au cœur, un cœur assoiffé, un cœur désireux d'avancer avec Dieu, un cœur désireux de lui plaire, un cœur désireux de lui obéir, de le glorifier, un cœur qui est prêt à se donner, à donner entièrement sa vie. C'est à ça que Dieu regarde. Amen. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le mérite. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la position sociale ou même avec la couleur de notre peau, parce que ces choses-là, je suis désolée, mais on ne les a pas choisies. Amen. Vous n'avez pas choisi de naître noir, moi je n'ai pas choisi d'être blanche, je n'ai pas choisi ça, et je vous assure, être blanc, être noir, ce n'est pas un avantage. Ça ne donne rien de plus. Ça ne fait aucune différence. La seule différence que je vois, c'est que quand vous êtes sous le soleil, ça ne vous gêne pas trop, alors que moi, ça me ruine. C'est la seule chose que je vois personnellement, sinon il n'y a rien d'autre. Dieu ne regarde et n'a pas regardé et ne regardera jamais à ces choses. Mais il est dit que par lui, par Jésus-Christ, par Dieu le Père, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en Christ. Et nous pouvons bénéficier du fait qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Nous n'avons pas à fonctionner ni dans notre sagesse, ni dans notre justice, parce que quand tu fais ça, tu es quelqu'un de religieux. Amen. Nous avons à fonctionner dans la sagesse que Dieu nous donne et que je vous encourage continuellement à demander à Dieu. Quand Paul priait pour les Éphésiens, il disait « Je prie que le Père vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » J'aimerais qu'on lise ça, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Parce que je suis persuadée que quand vous priez cette prière, vous la priez à l'envers. Afin que, verset 17, Éphésiens 1, 17, « Afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Premièrement, de sagesse. Amen. Premièrement, de sagesse. Et deuxièmement, de révélation dans sa connaissance. Et je suis persuadée que beaucoup ne prient que pour avoir un esprit de révélation dans sa connaissance. Ah, tu peux connaître pas mal de choses de Dieu, tu peux connaître Dieu, tu peux connaître la parole de Dieu, mais si tu n'as pas de sagesse, tu vas faire du dégât. Tu vas faire du dégât. Tu vas faire du n'importe quoi. Tu vas appliquer la parole de Dieu n'importe comment. Et ce qu'il ne faut pas dire, tu vas le dire. Ce qu'il ne faut pas faire, tu vas le faire. J'ai connu comme ça un exemple d'un étudiant biblique aux États-Unis. Ah, il avait la connaissance parce qu'il avait étudié la parole de Dieu. Il avait une connaissance. Et une fois, il va dans un hôpital et il y avait quelqu'un qui était malade et cette personne, elle n'était pas vraiment dans la foi. Est-ce qu'on a le droit de condamner quelqu'un parce qu'il n'est pas dans la foi? Non. On a le droit de condamner personne de toute façon. Mais quand tu vois que quelqu'un n'est pas dans la foi, ton rôle, c'est de l'instruire dans la foi, c'est de l'aider, c'est de l'encourager, c'est de lui montrer qu'au travers de sa foi, il va obtenir sa guérison. Amen. Et au lieu d'avoir cette sagesse-là, parce que c'est ça la sagesse de Dieu, au lieu d'avoir cette sagesse-là, il a pratiquement insulté le malade. En disant, mais je perds mon temps avec toi. Pourquoi est-ce que je suis là? Tu veux que je prie pour toi et tu es incapable de croire, tu vas finir par mourir dans ta maladie. Et il est parti en le laissant comme ça. Quelque part, ce qu'il disait était vrai. Amen. C'est vrai. Mais ce n'est pas comme ça qu'on dit les choses, ça n'aide personne. Ça ne changera rien. Au contraire, il va passer pour un monstre. Quelque part, c'est ce qu'il était, un monstre, de dire des choses pareilles, un serviteur de Dieu. La sagesse est l'esprit de révélation dans sa connaissance. Et nous avons besoin de sagesse. Ne te gêne pas de prier à Dieu, de prier Dieu tous les jours, même plusieurs fois par jour. Père, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse parce que vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de ta sagesse et de ta compréhension parce que la sagesse et la compréhension, ça marche ensemble. Sinon, on risque de mal comprendre. Et quand tu comprends mal, eh bien, tu te positionnes mal. Ça, c'est obligatoire. Mais quand tu comprends bien, tu te positionnes bien. Et quand tu comprends bien et que tu as la sagesse de Dieu, tu vas vraiment, vraiment, vraiment aller dans le bon sens. Demandez au Père de la sagesse. Demandez-lui à celui qui donne sans refaire de reproches, mais demandez avec foi. Avec foi. Amen. On revient un petit peu dans ce passage de Corinthiens. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ce que nous sommes, nous le sommes en Christ. Nous le sommes en Christ. Ce n'est ni nos mérites, ni notre couleur, ni notre position sociale. Mais nous avons été appelés à le servir. À le servir. Et Paul, il ne se trouvait pas d'excuses. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Mais Paul est celui qui disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis faible. Il reconnaissait qu'il était dans un état de faiblesse et de tremblement, mais il disait, ma parole ne reposait pas sur ma sagesse ni sur ma force, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu veut ça pour ta vie. Alors réveille-toi, réclame-le, saisis-le et manifeste-le dans le nom de Jésus parce que c'est la volonté de Dieu et Dieu va le manifester si tu lui demandes avec foi, avec persévérance, si tu le crois et si tu te dis c'est ça que je veux et rien d'autre. Sinon, mieux vaut mourir tout de suite, aller au ciel, là au moins je vais me reposer. Pourquoi se fatiguer pour rien inutilement ? Dieu veut revêtir son Église d'esprit et de puissance. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus et bonne journée.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.